Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Quatrième volet de cette dernière semaine de la saison 4 de Pop-pop et aujourd'hui nous allons parler musique. Car oui, non seulement Alexandre Astier écrit, joue, réalise, monte et fait des Scooby-Doo avec ses deux gros orteils en peignant de la bouche, mais en plus il compose de la musique, qu'il interprète parfois, voire dirige si l'envie lui en prend. Oui, ce diable d'homme a décidément tous les talents et aujourd'hui nous allons nous arrêter quelques instants sur cette veine lyrique qui l'anime depuis ses plus tendres années et lui permet tout aussi bien d'évoquer la vie de Jean-Sébastien Bach que de mener à la baguette un orchestre symphonique ou de coller les tympans de ses aficionados en jouant sans crier gare à la fin d'un spectacle à un genre de fusion métal à décorner les bœufs. S'il était archer, nous dirions que cet homme-là a plus d'une corde à son arc, ce qui en ferait de facto un harpiste, mais il préfère la bonne vieille épée des familles, ce qui tombe sous le sens quand on est le roi Arthur. Et c'est une princesse électrique, ce qui nous change des faits, Jenny Beff elle-même, rentrée dans la danse Camelot, qui vient commenter avec nous et Alexandre, bien sûr, le charme auquel elle a depuis longtemps succombé, comme nous avons depuis longtemps succombé au sien. Pop, 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 en ce jeudi 1er juillet de cette année où résonne enfin ces tant attendues trompettes, c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Paule.
Et cette semaine spéciale Alexandre Astier sur France Inter continue donc avec Alexandre Astier. Bonjour Alexandre Astier.
Quand vous dites que j'ai de gros orteils, est-ce que c'est pour... Non, mais je pose la question. C'est pour les distinguer des huit autres qui sont plus petits ou j'ai particulièrement de gros orteils?
Non, vous avez des orteils d'une taille tout à fait honorable. Et...
Ben, moi, excusez-moi, je préfère que ce soit rétabli sur une onde comme ici.
Moi, il m'a parlé de Knacky Ball. Après, vous faites comme vous voulez avec lui, vous
attention.
Arrangez comme...
Attention.
Je parlais des gros orteils, ceux qui vous permettent...
De faire des Scooby-Doo.
Voilà,
j'ai bien compris. Absolument, oui, c'est les plus agiles finalement.
Ce qui est beaucoup plus difficile avec les petits orteils, je vous ferai remarquer. Bon, c'est pas compliqué dans la vie de tous les jours d'entendre ces trompettes à chaque fois que votre nom est prononcé.
Cher monsieur, je les ai refaites, c'est des corps, et je les ai refaits avec l'Orchestre National de Lyon. Je me suis dit, tiens, faisons un reboot de corps. Donc ils sont tout neufs, ils sont tout pimpants, tout frais.
À mes côtés, au trombone à coulisses, bonjour Charlie.
Toujours. Et je peux pas avoir un instrument sympa, n'importe quoi, une flûte à bec, n'importe quoi, mais pas ça, pourquoi ça?
Moi, la dernière fois que je suis venu, c'était déjà un peu ça,
cette ambiance un peu délétère,
oui, absolument. Bah ouais.
Bon, et avec nous également, je l'annonçais dans quelques instants, la chanteuse Jenny Beff. Mais pourquoi Jenny Beff est-elle associée aux trompettes que nous venons d'entendre? Je pose la question à Alexandre.
C'est pas...
Attendez. Les trompettes sont là pour nous signaler que c'est un spoiler. Ne répondez pas tout de suite, vous le ferez dans la seconde partie de l'émission.
Et ce sera plus un spoiler.
Non.
C'est bien fait.
Bon, Alexandre, je vous propose de rejoindre le château de Camelot parce que j'ai une autre audience avec les Sparks. J'en ai pour quelques instants. Enfin, si le roi Arthur m'y autorise.
Faites, bien sûr.
En vous remerciant. Avant de retrouver Jenny Beff et Alexandre Astier, je vous propose donc d'aller papoter en compagnie des Sparks qui signent la musique du nouveau film de Léo Scarac.
We love each other so much. We love each other so much. We're scoffing at logic. This wasn't the plan. We love each other so much.
We love each other so much. We love each other. Thank you.
each other so much. We love each other so much.
Speak soft when you say it.
Speak soft when you say
we love each other.
Speak soft when you say
we love each other so much.
So much, so much, so much, so much, so much.
We love each other so much, nouveau morceau de la BO du film Annette, réalisé par Léo Scarrax, signé des Sparks, film qui fera l'ouverture du Festival de Cannes dans quelques jours. Et avant de retrouver Alexandre Astier pour causer musique, nous accueillons avec une certaine émotion Ron et Russell Mell, autrement dit les Sparks. Bonjour Ron, bonjour Russell.
Bonjour.
Bonjour. Si l'on veut comprendre cette... Vous vous souvenez de Charlene, bien sûr.
Of course.
Of course.
Comment pouvez-vous Charlene? Si l'on veut comprendre cette collaboration, il faut rembobiner un peu. Retournons au Festival de Cannes en 2013. Vous venez de rencontrer Léo Scarrax, qui est fan de longue date et qui, un an plus tôt, a utilisé ce morceau à vous dans son film Holly Motors. Et le courant passe tout de suite entre vous et de retour à Los Angeles, vous lui envoyez votre album Annette, sans rien attendre de sa part, dites-vous, mais trois petits points, je vous laisse compléter ces trois petits points.
On avait ce projet Annette, qui allait être notre prochain album, un projet narratif avec une histoire d'une chanson à l'autre, avec deux personnages principaux. Un comédien stand-up extrêmement célèbre qui est très provocateur et qui tombe amoureux d'une chanteuse d'opéra. C'est très surprenant.
Et
tous les deux ont cette histoire incroyable d'amour. Et à partir de là, les choses prennent un mauvais tour. On était des fans, vraiment, des films de Léos, avant qu'on le rencontre. Et donc, on a trouvé cette proximité avec lui très rapidement. On lui a envoyé donc le projet, Annette, sans vraiment penser que ça pouvait être un film. Et quand il nous a dit qu'il lui voulait réaliser un film à partir de ça, on était vraiment surpris. On partage une sensibilité commune dans cette idée de ce que devrait être un film musical aujourd'hui. Et puis voilà, c'est peut-être ça qui donnera du succès à Annette. On sait très bien ce que l'on aime et ce qu'on n'aime pas dans le domaine des films musicaux.
Et ce sera du succès, je vous l'annonce. Annette, ce sera donc l'ouverture du Festival de Cannes et ce sera à découvrir simultanément au cinéma le 6 juillet. Et Amis Sparksiens, le mois de juillet va être dense, et c'est amusant quand on parle de musique et de cinéma, car le 28 juillet sort également The Sparks Brothers, le documentaire signé, réalisé par Edgar Wright. Bande annonce.
Throughout all the years that I've been making music, if you get on a tour bus with a bunch of musicians, eventually the conversation will go to Sparks.
I remember just seeing them all the time, like, who are those guys?
They are a band who you can look up on Wikipedia and know nothing.
We are Sparks,
dude.
Why have you resisted doing a documentary until now?
We didn't want to do the standard documentary full of talking heads. It would become too dry.
Étrange, bizarroïde, mais follement pop. Ce doc est un portrait au long cours qui suit la chronologie de vos 25 albums. Le comédien Mike Myers, Austin Powers pour les intimes, dit, enfin connaisseur, c'est ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils se moquent d'eux-mêmes. Est-ce que c'est ça le secret des Sparks ?
Russell.
Je dirais pas que le secret, c'est qu'on sait se moquer de nous-mêmes, non. On a de l'humour dans certaines de nos chansons, mais il y a aussi un autre côté qui peut-être qu'il y a plus de profondeur aussi, il me semble, dans ce qu'on fait. On a été très heureux de voir que Edgar Wright avait fait ce documentaire, souhaitait faire ce documentaire, et qui effectivement faisait donner la parole à des gens comme Mike Myers et qui s'est révélé un fan de notre groupe. On ne connaît pas tant de gens nous-mêmes, donc.
Edgar Wright est un réalisateur anglais, je le précise, ça aura son importance dans la suite. C'est à lui qu'on doit les très cultes Shaun of the Dead ou encore Scott Pilgrim. C'est un fan de longue date, un réalisateur lui aussi plein d'humour. Comment est-ce qu'il vous a convaincu d'être les héros de son premier documentaire ?
C'était Edgar Wright et qu'on connaissait ses films. D'autres gens étaient venus vers nous pour faire un documentaire et on avait toujours eu l'impression que d'une façon ou d'une autre, c'était un peu comme une mise en bière de faire ce genre de documentaire. Mais lui nous a dit qu'il allait parler de toutes les périodes de Sparks jusqu'à l'époque présente. Et puis, il allait vraiment aussi interviewer des gens avec des avis différents sur nous, même si ce n'était pas exactement ce que l'on pensait, nous. Donc ça nous a intéressés. Et on est très heureux du résultat.
An Edgar Wright film,
because c'est vraiment un film de Edgar Wright. Il fait ces montages extrêmement fous et vraiment, il a réussi à ne pas faire un film ennuyeux sur les Sparks. Ça vraiment ressemble à un film d'Edgar Wright qui, cette fois-ci, est un documentaire.
Et un futur qui s'annonce encore très très riche, puisque Russell annonce entre 200 et 300 albums à venir après les 25 déjà publiés.
Oui, si jamais la médecine progresse assez, mais effectivement c'est ce qu'on prévoit.
Il n'y a jamais eu de film sur les Sparks, hein, jusqu'à The Sparks Brothers, comme on le disait à l'instant. Alors pour ceux qui vous aiment, c'est un must absolu, et pour ceux qui vont vous découvrir, c'est une histoire absolument vertigineuse. Quand vous jetez un regard en arrière tous les deux, est-ce que ça vous flanque le tournis un peu tout ce qui s'est passé.
On est vraiment content que Edgar a vraiment réussi à parler de quelque chose dans le film et essaie.
Essaie
finalement d'attirer les fans de Sparks, mais aussi de parler à des gens qui ne connaissent rien de Sparks du tout. Il a réussi à parler de cette persévérance dans n'importe quel art d'ailleurs. Et des gens qui ne connaissent pas tellement notre groupe peuvent finalement trouver une inspiration et voir que avec de la persévérance, on peut avancer sans se poser tout le temps est-ce que ça va marcher commercialement ou pas. Ce qui est important, c'est de faire ce que l'on aime, et c'est ça qui dans tout projet artistique. Et il a réussi à souligner ça dans son film. C'est un film qui a une sorte de portée universelle, il me semble, là-dessus. C'est pas seulement un documentaire sur un seul groupe.
En gardant ce qu'on peut appeler une forme d'intégrité.
C'est ce que Edgar souligne. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'intégrité dans ce qu'on fait. Et si quelque chose fonctionne bien par rapport au public commercialement, alors tant mieux. Mais ça ne peut pas être le but final. Si on avait eu le choix de ne pas avoir l'intégrité, si vous voulez, on aurait peut-être pris le chemin du commerce. Mais malheureusement, on a dû se rabattre sur l'intégrité.
C'est
parfois on dit ça et on se donne sa petite médaille en disant ça, mais mais si vous voulez, on n'a pas toujours le choix.
Et ce qui est très étonnant sur ce documentaire, c'est qu'il a presque la forme d'un film d'enquête. Il y a un mystère à résoudre. Et quand on voit le casting rassemblé par Edgar Wright, qui va de Beck à Björk, en passant par Mark Gatiss, Flea, Visconti et Moroder, avec qui vous avez collaboré, Thurston Moore, est-ce que vous avez été surpris du nombre d'artistes qui avaient des choses à dire sur vous?
C'était une grande surprise, heureuse. Et pas seulement des musiciens. Qui parlent de façon très généreuse à travers différents genres de musique,
des Sex Pistols
jusqu'à Duran Duran, et avec tous les autres. Mais il y a aussi des acteurs, des comédiens comme Mike Myers, Neil Gaiman, l'auteur. Et ça a été une grande surprise pour nous que Neil Gaiman parle si éloquemment de ce que c'était pour lui, les couvertures des albums et les paroles. Toutes ces grandes personnalités créatives qui sont rassemblées dans ce film-là, c'est complètement dingue.
Oui.
Il m'a semblé qu'il avait compris les paroles, nos paroles plus que moi-même.
Léos Carax, dont le nouveau film Annette sera donc présenté en ouverture du Festival de Cannes et dont nous parlions il y a quelques instants, vous a découvert à l'âge de 14 ans en volant, en subtilisant le 33 tours de votre album Propaganda. Alors pour ne pas pousser nos auditeurs à faire de même, je leur offre un extrait de cet album avec le morceau Something for the Girl with Everything.
Something for the girl with everything. See the right to
Something for the Girl with Everything dans Pop 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 sur France Inter. C'est un morceau signé des Sparks, nos invités aujourd'hui. Et c'est un morceau qui me fait dire waouh, car je sais que pour vous, je vous cite, hein, la pop musique, on sait qu'elle est bonne quand on se dit waouh.
Je redis waouh. Et messieurs, votre histoire avec le cinéma, puisque c'est de ça dont il est question aujourd'hui, est de genre plutôt accidenté. Un projet non abouti avec Tati, Confusion, Le Toboggan de la Mort, un film de James Goldstone qui n'a pas eu le succès escompté, un film très sérieux, réalisé par Russell, un autre projet avorté avec Tim Burton, être doublement dans les cinémas cet été. Est-ce que c'est une consécration ou un joli pied de nez à tout ça?
Quelque part, on est un peu aussi surpris que les autres. Après, effectivement, toutes ces expériences de projets fantastiques pour le cinéma qui ne se sont pas faits. Et là, tout d'un coup, on a deux films qui sont des projets extrêmement prestigieux d'un point de vue réalisateur, tout ça. Donc ce documentaire d'Edgar Wright et puis ce film Annette réalisé par Léos Carax avec Marion Cotillard et Adam Driver.
C'est
effectivement, c'est comme si on a tout réussi après toutes ces tentatives ratées du passé.
On peut prendre sa retraite du coup, Ron.
Now you can retire.
We just never learned our lesson.
On n'a jamais appris de leçon. Si jamais on avait été raisonnable, on aurait... On se serait dit, tant pis pour le cinéma et restons-en simplement sur les chansons, sur la musique.
Et c'est pour ça qu'on vous aime, parce que vous n'êtes pas raisonnable. Ron Russell, on apprend plein de choses dans ce...
Déraisonnable, ça me définit très bien.
On apprend plein de choses dans ce passionnant documentaire d'Edgar Wright, qui retrace donc 50 ans de carrière, notamment... coup de théâtre final, qu'il y a un malentendu sur vos identités. En fait, Ron serait Russell et Russell serait Ron.
Oui, ça fait la fin du documentaire, effectivement. Et Edgar avait concocté cette fin avec un dialogue entre nous, parce que parfois, quelque part, nos répliques se brouillent, on parle l'un sur l'autre. Et à la fin, je retire mon masque et on voit que je suis Ron et que Ron, c'est moi qui lui aussi retire son masque. C'est comme ça qu'on finit le documentaire. Et le mystère et reste complètement complet, finalement, sur ce qui nous définit. C'est tout aussi, finalement, les choses ne sont pas plus claires là-dessus, sur nous, à la fin.
Ouais. Autre confusion qui a longtemps perduré, on vous a longtemps pris pour des Anglais alors que vous êtes né en Californie. Qu'est-ce qu'il y a de British et qu'est-ce qu'il y a plutôt de Los Angeles dans votre son ?
J'ai l'impression qu'on a essayé de piquer tout ce qu'on pouvait au groupe anglais au début. Ils étaient plus sexy, ils étaient plus flashy que les Américains. Ils avaient quelque chose de sérieux, et puis il y avait quelque chose d'intéressant et introspectif. Et nous, on voulait aller dans ce sens-là, d'être plus flashy. Dans la pop musique, le côté visuel, c'est quelque chose qui doit vraiment faire corps avec la musique. Il faut que le côté visuel... dans le côté américain, il était en dessous, il était sous-traité, il était maltraité. Et donc cet élément, il était plutôt méprisé. Et donc très vite, on s'est senti proche des groupes anglais. J'ai l'impression que dès le début, la musique aussi, notre musique était influence par le public anglais, par les groupes anglais, quand on a commencé. C'était étrange, dans les années 70, on est parti habiter là-bas. Et puis ensuite, on est revenu. Et quand on est revenu en Amérique, c'était écrit partout sur les affiches qu'on venait d'Angleterre. From England, c'était écrit. C'était bizarre pour nous. Mais on s'est habitué.
Ron et Russell, je vois là par exemple Russell qui essaye de regarder Ron parce qu'il y a Harold Manning, notre traducteur, qui est juste entre vous deux. Donc il ne peut pas quitter son frère des yeux. On sent qu'il y a un lien mais absolument organique entre vous. Vous ne pouvez pas vous espacer.
C'est parce que simplement je peux pas entendre ce qu'il dit. Il y a la traducteur entre nous.
Bon, puisqu'on en est aux révélations, grâce notamment à ce documentaire, laissez-moi vous dire qu'en fait c'est pareil chez nous. En fait, Charline est Antoine et moi je suis Charline. Le problème c'est que Antoine, en fait Charline, est depuis longtemps amoureux de Russell et elle découvre que c'est Ron. Que fait-on ?
Is that a question?
Yeah. C'est une question que vous me posez?
Oui, c'est le bordel. Qu'est-ce qu'on fait?
Yeah,
qui fait quoi?
On garde le mystère.
Oui, c'est le bordel.
We need to have name tags.
Ouais. Vous devriez porter une étiquette avec votre nom. Mon nom est...
On va faire ça dorénavant.
Bonjour, je m'appelle Russell.
Ah, parfait.
In all seriousness, though, I think it's one of the reasons why we've been able to continue for so long is that
pour laquelle finalement ça continue finalement depuis des années, parce qu'il y a des rôles qui sont assez séparés entre nous dans Sparks. Si quelqu'un m'a entendu chanter une fois, ils savent que vraiment, c'est vraiment lui qui doit chanter, c'est pas moi, je suis pas la personne qui doit chanter. Moi, mon plaisir, c'est d'écrire les chansons. Donc, et nos deux rôles, finalement, ne se chevauchent pas du tout dans le travail.
Dans le documentaire d'Edgar Wright, on assiste à une reconstitution. Vous jouez sur un plateau télé et on entend une gigantesque star en appeler une autre pour commenter votre prestation d'un « Regarde, Mark Bolan chante une chanson avec Adolf Hitler ». À qui doit-on cette drôle de comparaison ?
In the documentary,
John Lennon is, c'est John Lennon
is saying it to his bandmate Ringo Starr.
Ah, Ringo Starr.
Yeah, and no, we never liked the connotation of a certain
German du tout se complaire dans une quelconque comparaison, une ressemblance avec ce personnage historique allemand, mais on est heureux que les membres des Beatles nous aient remarqué. Surtout que plus récemment aussi, ça fait un peu un moment maintenant, mais Paul McCartney aussi a imité Ron dans un de ses clips qui s'appelle Coming Up. Et ça, c'était quand même quelque chose comme le compliment ultime, que un des membres des Beatles, comme ça, rend hommage à Ron, c'était dingue. C'est en France que j'ai changé ma moustache, parce que c'était dans les années 80.
Kind of kicked off a TV show, not
que on nous passait plus à la télévision.
Il
y avait un présentateur, je ne dirai pas son nom. C'est pas quelqu'un qui travaille encore aujourd'hui. Mais il parlait de ma moustache comme étant vraiment quelque chose d'insultant. Et je me rendais pas finalement compte de ça. Et je me suis rendu compte que je ne voulais pas du tout évoquer cela. Et donc j'ai changé ma moustache, je l'ai taillée différemment.
C'est
quelque chose d'un peu plus normal.
C'était aussi un peu la moustache de Charlie Chaplin quand même.
Oui, il y a plus pas que déjà. Ouais. Bon.
C'est comme ça que je voyais les choses.
ou
Oliver Hardy aussi. Mais c'est rentré dans l'arène politique après dans les comparaisons.
Ron Russell, pour terminer, vous êtes absolument indissociable. Vous êtes frères, mais contrairement à Oasis, aux Beach Boys, aux Ramones, aux Jacksons, vous êtes des frères qui résistent. Comment traverse-t-on 50 années de carrière sans se fâcher ?
Tous les deux, on ne s'en parle jamais, mais on a l'impression, je crois qu'on a comme une mission avec notre musique. On a le sentiment qu'il y a des façons de faire de la pop aujourd'hui qui n'a pas encore été explorée. Et on se trouve dans une situation où nous, on a 25 albums où on a toujours essayé de faire quelque chose de moderne et d'essayer d'un peu provoquer des choses. Et ce n'est pas toujours le cas effectivement, par des gens qui ont une grande carrière. Les Rolling Stones, tout le monde les aime. Mais chaque fois qu'il y a un nouvel album, quelque part, on sait que ce que va être, ce n'est pas une vraie surprise. Alors que Sparks, nous, on essaie de faire chaque album différent. Il y en a toujours un désir, une envie de faire quelque chose qui découvre de nouveaux horizons, même si on a 25 albums derrière nous.
Merci. Cette odyssée musicale est à découvrir de toute urgence dans The Sparks Brothers, le documentaire de Edgar Wright, et c'est avec les témoignages d'Alex Capranos, de Björk, de Danny DeVito, de Beck et de bien d'autres encore. Et je rappelle que le nouveau film de Léos Carax, Annette, est à découvrir lui mercredi prochain. Et pour nous faire patienter, la BO du film que vous signez sort, elle, demain. Quant au documentaire qui vous est consacré, il sortira le 28 juillet. Voilà, enfin, nous vous retrouverons sur scène le 19 avril 2022 au Casino de Paris. Merci de nous avoir... Voilà. Merci de nous
beaucoup.
Avoir rejoints. Et j'entends les trompettes. Ah, c'est Alexandre Astier qui nous appelle. C'est reparti.
Take
Chase It Down, c'est un morceau signé Jenny Beff dans ce Pop 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 spécial, car oui, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture cette semaine de façon... Alors évidemment, parce qu'Alexandre Astier est de retour dans sa semaine spéciale avec aujourd'hui Jenny Beff. Bonjour Jenny Beff.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue parmi... Comment allez-vous ?
Ça va bien, en bonne compagnie, donc je suis très heureuse.
Et je vous trouve très en forme.
Ah ouais ?
Oui, très en beauté avec vos petits cheveux courts.
Ah, merci. Ouais. C'est le masque, ça me permet de...
Charline, avant de connaître le lien entre Jenny Beff et Alexandre, pouvez-vous nous faire le pop portrait express, s'il vous plaît, de Jenny Beff ?
Mais avec grand plaisir. She's the man, pour paraphraser l'une de ses chansons. En réalité, c'est la femme de toutes les situations, artistiquement. Il n'y a pas grand-chose qu'elle ne sache faire. Comédienne, nommée au César pour Un amour impossible de Catherine Corsini. Et comme elle a le rock en intraveineuse, elle a opéré sur scène et CD avec sa moitié créative Johnny Hostile dans John et Jen, avec les Amazones de Savages, puis en solo avec le fantastique album To Love is to Live. Elle accueille aussi et interview ses pairs dans des émissions musicales. Elle revient aujourd'hui avec une double actu ciné avec Son Altesse Astier et musicale avec Son Altesse Gillespie, Bobby de Primal Scream, avec qui elle vient de faire un album. Alors n'y allons pas par quatre chemins, Jenny. C'est qui le plus sympa des deux ? Sachant qu'Alexandre Astier est à côté de
vous. Ouais, c'est marrant que ce soit celui qui est sur le plateau. Rien à voir, bien entendu.
Non, 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 non.
On va en parler en toute franchise.
En toute franchise, Alexandre. Je crois qu'on ne fait pas mieux en gentillesse.
Je suis plus gentil que Gillespie. Bon, mais je ne suis pas venu pour rien.
Et Jenny, comment résonnent-elles dans votre tête les trompettes que nous venons d'entendre ?
Ben, c'est marrant parce que la dernière fois que je suis venue, vous demandez un son qui est pop.
Ouais.
Ben, j'aurais dû prendre ça. En fait, j'étais un peu dégoûtée.
Alexandre qui nous a précisé que ce n'était pas des trompettes, mais des cors.
C'est des cors, oui. C'est une section de cors, absolument. On est entre hommes de goût, on est entre musiciens, ce serait bien de commencer à utiliser
les bons termes.
Les bons termes.
Ben, moi, ça me fait toujours un frisson quand je les entends, personnellement.
Eh bien, ces cors, ils résonnent, eh bien, parce que vous êtes... Au casting de Kaamelott, premier volet, qui sort le 21 juillet. Alors, musique et cinéma sont étroitement liés dans votre parcours, Jenny, comme le rappelait Charline. Comment avez-vous réagi quand le roi Arthur est venu vous proposer de participer à ce premier volet de Kaamelott au cinéma ?
Alors, je l'ai joué super cool.
Genre
j'ai dit, La semaine prochaine. Je vais appeler mon agent, je suis pas sûre. Ouais, peut-être, mais ça... Alors quand j'ai raccroché, par contre, c'était toute une autre affaire. J'ai dû appeler Johnny Hostile en hurlant. Mais non, grande fan de Kaamelott, moi, à la base, et d'Alexandre, du travail d'Alexandre. Et donc, quand j'ai été appelée, j'ai trouvé que c'était une idée un peu débile. Mm-hmm. Mais chouette. Ouais. Qui m'appelle pour une comédie? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est-à-dire que... Quelle idée saugrenue. Mais justement, j'ai trouvé ça tellement...
Vous n'êtes
étonnant,
pas habitué à être distribué dans des rôles de comédie. Enfin, je sais même pas si on peut.
Ah mais non, mais c'était le premier, première fois. Après, je sais pas si je suis drôle. Je sais pas si j'étais appelé pour ça. Mais je veux dire, c'était quand même dans un contexte qui me sortait.
On peut poser la question à l'intéressé.
Mais moi, je cherche pas tellement des fous. Vous savez, je bosse beaucoup avec Antoine Decaune, par exemple. Donc, je cherche pas forcément des mecs drôles à tout prix. Je dis simplement, moi, je cherche des gens rigoureux. Vous êtes rigoureux, Antoine Decaune. Jenny Beth, vous êtes rigoureuse.
Discipline, voilà. Tout.
Parce que sans rien spoiler, sous peine de me voir condamné durement, il y a désormais quelque chose de pourri au Royaume de Bretagne et vous n'y êtes pas totalement étrangère, Jenny. Vous tenez un rôle de badass de compétition. Est-ce que ça a influé de quelque manière sur votre envie de participer?
Bah, disons que je me sentais pas totalement étrangère en personne. On m'a dit tu vas porter un énorme crête sur la tête et tu vas regarder les gens en fronçant les sourcils. Bon, ça c'est un peu un truc que je fais
naturellement
de base. Hein, donc le Johnny Rotten est dans la ma peau. Donc mais non, mais moi j'étais fan. C'est un peu comme être appelé pour Star Wars. D'un coup on se dit quoi, je vais être dans Star Wars. Enfin quoi, je vais être dans Kaamelott. Enfin c'était un peu le même effet pour moi.
Donc, ceci dit, si je m'occupe de spoil moi-même.
Allez-y. Si c'est vous qui le faites.
Hein. Ouais, non, mais c'est pas vraiment du spoil, mais simplement, moi, j'ai des méchants dans mon Kaamelott.
Ah bon?
J'ai des méchants, c'est des Saxons. Ouais. Les Saxons qui ont réellement envahi l'île d'Angleterre, tout ça, etc. Et du coup, ces Saxons, moi, je les ai voulu british. Les acteurs qui allaient prendre en charge ces rôles de Saxons, je les ai voulu british ou britishisants. Mmh. Je m'étais dit, ils auront un accent, ils pourront parler ancien anglais.
Ouais, ouais.
Puisque Jenny Beth, donc elle est modeste,
c'est ma passion.
Mais c'est vrai, c'est sur son CV l'ancien anglais, voilà. Guitare ancien anglais, équitation, je sais plus. Et donc du coup, ça a toujours été des British pour moi. Donc j'ai eu le patron, le patron des British, il est venu,
Sting, Gordon.
Et puis c'est Sting. Mm-hmm. Et du coup, il me fallait la semi-patronne, Wolfstan et Jenny Beth. C'est parfait. C'est pas, vous les regardez tous les deux là, on sent qu'ils vont envahir, qu'ils vont envahir le bled. Ouais. Ça se voit, quoi.
J'ai une double question. Est-ce que vous avez une dent personnelle contre les Anglais, comme vous dites?
Absolument.
De manière générale.
Oui.
Et ensuite, pourquoi avoir choisi Jenny? On adore Jenny ici. C'est pas pour ça que je vous pose la question.
Je suis en train de repasser le casting, là.
Mais pourquoi est-ce qu'elle correspond aussi bien à cette méchante
Alors, qu'est-ce que j'ai contre les Anglais? La jalousie de ne pas en être un, probablement. Mm-hmm. Et pourquoi Jenny? Parce qu'en plus de ça, je crois que j'étais intéressé par le fait d'engager des gens qui ont un pied dans la pop, et quel meilleur endroit qu'ici pour le dire. Parce que je crois que même dans le style, j'avais envie que ces mecs soient un peu thatchériens, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un peu Paul Tax, vous voyez. Et du coup, évidemment, Jenny, au-delà de ses nombreux talents, il y a aussi une volonté du look, il y a aussi le fait d'affirmer un style comme ça, d'un certain truc de British. Je trouve que quand mes Saxons, ils arrivent à l'écran, alors on dit putain, oui. Eux, ils viennent de quelque part, mais c'est pas les mêmes que d'habitude. Mmh. Eux, ils ont un exotisme intrinsèque. Mmh. Et je parle bien évidemment pas de l'accent que Jenny est capable de prendre en fait très bien. Elle le connaît depuis toujours, c'est ça, en fait, finalement, cet accent-là.
Bah, après 13 ans de vie à Londres, c'est vrai que même honteusement, je parlais un peu anglais, français, avec un espèce de truc bizarre d'accent qui traîne.
Un peu comme Jean-Claude Van
Damme. Bon, là, je l'ai vraiment accentué pour le film. Bah oui, mais en même temps, moi, je me moque pas de Jean-Claude s'il n'est pas dans la pièce.
Nous non plus.
Moi, je m'en moque pas s'il est dans la pièce.
Ouais.
Je
suis dit,
vous en moquez jamais, en
non
fait.
Plus,
faut se détendre,
d'ailleurs.
Oui, voilà.
Alexandre, vous écrivez des histoires en tant qu'auteur, bien sûr, mais vous dites toujours que votre langue préférée, c'est la musique. C'est ça le point commun, peut-être, entre vous deux?
Oui, moi j'aime bien, alors, au-delà de décrire la musique, tout ça, puis au-delà, c'est vrai, de parler souvent aux comédiens en termes de... un peu plus de d'air ici, un peu plus de silence là, un peu plus haut, un peu plus, enfin moi c'est vrai que je j'aime beaucoup travailler avec les gens qui ont l'habitude d'avoir une notion musicale de leur réplique.
Ouais.
Je m'entends très bien avec ces gens-là et c'est vrai que Jenny il y a un truc, évidemment on se retrouve comme si quand on se donne des petits conseils, des machins, quand on se dit est-ce qu'on peut essayer par là, par ici, par... c'est toujours un peu des notions musicales et je me sens très bien en fait dans ce domaine-là.
Jenny,
bah oui,
la musique, langage commun, quoi.
Oui, et puis il y a vraiment le sens du rythme, j'imagine, ou de l'écoute aussi. C'est quelque chose qu'on apprend quand on commence la musique aussi, quand on joue avec les gens. Je crois que c'est assez similaire en fait. D'avoir, et puis le réalisateur un peu le chef d'orchestre de tout ça, et on essaye des choses, et c'est toujours je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes
au final, Dieu sait s'il y est sensible. Si j'ai pu remarquer, vous dirigez à l'oreille autant qu'à l'œil.
Est-ce que
oui, je sais pas vrai. Si c'est flatteur à dire.
Non mais si, des fois je ferme les yeux, donc ouais, c'est vous dire. Donc
voir.
Vous quand vous dites sensible, est-ce que vous entendez chiant?
Non, pas du tout. J'entends par là que vous avez la musique, la partition est écrite.
Moi je trouve que quand ça sonne bien, quasiment tout est fait. C'est-à-dire que comme je fais le montage, j'avoue que si jamais j'ai la chose qui sonne bien avec l'image, je me débrouille. Je me débrouillerai toujours pour passer par derrière, pour recoller les morceaux et retomber sur mes pattes. Mais quand ça sonne mal, c'est irrattrapable.
Et puis ça doit être chouette de pouvoir écrire sur des acteurs qu'on connaît bien aussi, j'imagine, parce qu'on entend la musicalité de leur voix et de leur manière de faire.
Beaucoup, mais quand même, il y a un petit. J'aime beaucoup accueillir des gens qui sont jamais venus. J'aime beaucoup ça. Des fois, ils ont un peu les jetons. Parce que vous, monsieur Decaune, vous êtes habitué à tout ça. Vous savez que vous avez le texte au dernier moment. Vous savez que vous avez le texte le matin. Mais il y a des.
Ah oui, le texte parfois à 10h du soir.
Parfois même... pendant le tournage.
Oui, voilà. Au maquillage. Donc vous, ça va, vous ne m'en voulez plus. Mais des fois, les nouveaux, ils ont un petit peu les jetons. Parce qu'ils se disent, mais je ne connais pas mon texte. Je vais me planter. Je vais me ridiculiser devant tout le monde. Ça ne se passe jamais comme ça, bien entendu.
L'anglo-saxon à 22h du soir, oui, c'est vrai que bon.
Oui, c'est du vieil anglais. Mais enfin, après, il ne faut pas le mettre dans son CV si on ne sait pas le faire.
Juste un instant, je voudrais revenir sur ce que nous on appelle depuis tout à l'heure les trompettes, Kaamelott, et qui ne sont absolument pas des trompettes. Mais la grande force de ce gimmick, c'est qu'en 3 secondes, on sait de quoi on parle. Pour l'un comme pour l'autre, est-ce que 3 secondes pour identifier un thème ou un artiste, c'est si facile que ça à obtenir?
Il faudrait trouver un autre artiste
C'est ça.
J'ai qui pas se distingue en 3 notes.
J'ai pas des masses d'exemples.
Si tu fais ça fait 5, t'en as un. Et... et encore c'est 5, c'est pas 3.
Oui.
Ah, vous êtes hyper fort en fait, c'est le... tout.
Ouais, t'es pareil, c'est plus. Le troisième type, c'est 5.
Ouais, troisième type, ouais. 3 notes.
Non, c'est 4. Ouais,
okay. C'est 4.
Pas mal, pas mal.
Ou un. Non, 6. Non.
Écoutez, voilà ce que je vous propose, moi. Jenny, vous jouez également dans les Olympiades de Jacques Audiard, qui est en sélection au Festival de Cannes. Vous avez également composé un titre de la BO de la série Dermy, et vous venez de tourner une comédie musicale avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort et Damien Chapelle. Qui est le plus hyperactif entre vous deux, Jenny Beff ou Alexandre Astier?
C'est la compète. Attention, est-ce que tu es compétitif?
Non, mais moi je glande beaucoup.
Ça se voit pas.
Non, mais ça se voit pas. Mais parce que voilà, mais vous savez, là j'ai là. Moi, je pense que je peux laisser vraiment. Alors là, le fleuron de. Je lui laisse le drapeau. Voilà, elle porte le drapeau de l'hyperactivité. Moi, j'arrête.
Mais moi, je ressens la même chose. Quand on me dit que je suis hyperactive, j'ai l'impression que moi, je fais jamais assez. Mais après. J'ai peut-être toujours l'impression que je peux tout faire, mais c'est que j'aime bien me jeter dans les choses où je sais pas si je vais y arriver. C'est un peu comme Kaamelott, j'avais aucune idée. Mais ce qui était chouette, c'est justement d'arriver presque à être appelé un peu le dernière minute aussi. Ça s'était fait très très rapidement, pas avoir le temps de réfléchir et puis aussi d'être accueilli par une équipe. Alors on met le costume sur vos épaules. On n'est pas tout seul, quoi. Enfin, moi je peux faire plein de choses, mais je fais beaucoup de choses en équipe. Et en fait, c'est ça qui me sauve. Enfin.
Et sans rien spoiler, vous êtes satisfaite par le résultat de Kaamelott?
Alors, moi, je l'ai vu...
Parlez en toute franchise.
Moi, je l'ai vu hier soir. Et en fait, alors, des fois, on peut adorer le film. Là, c'est le cas pour moi. J'ai adoré le film. Et des fois, il y a un petit truc où on a des scènes coupées. Alors, du coup, on a beau aimer le film, on déteste le réalisateur. En même temps, c'est un peu un double effet qui se coule. Et là, j'ai 0 scène coupée. Donc, j'adore le film. Et en plus, j'adore le film, quoi. Enfin...
Ceci dit, vous adorez le film.
Mais il n'est peut-être pas trop tard pour que je coupe. Ceci dit. Attends.
Non.
Je l'ai chez moi.
Non. Ça fait ça quoi? Ça fait un an que ça dure, cette histoire.
Ouais, c'est ça. Ouais. On n'a pas fini.
Un pauvre confinement au milieu. Non, on ne va pas recommencer.
Mais
maintenant.
fais le montage chez moi, j'ai juste à me faire un petit café, dans ma bio, les
tiens, non, Jenny, non, on va peut-être lui enlever une petite minute
on
n'y
touche plus. Bon, Jelly Beef, comme nous parlons de ce nouvel album qui sort vendredi, je vous propose de continuer à en parler, mais dans la langue d'Alexandre, à savoir la musique, avec ce morceau « Remember, we were lovers ». Remember We Were Lovers sur France Inter, c'est un morceau signé Jenny Beef, invité de cette semaine.
Jenny Beef et Bobby Gillespie, hein, c'est un projet collaboratif.
Ok, c'est bien de le préciser.
Sur la dérélection du couple, c'est
d'accord,
une histoire.
D'accord,
c'est
d'accord.
Ça.
Bon, enfin Jenny Beef et pas Bobby Gillespie, puisqu'il n'est pas là, Bobby Gillespie, invité cette semaine, la spéciale Alexandre Astier dans Pop, Pop, Pop. Alors, attention, je passe maintenant la parole à... Charline.
Oui, c'est moi, tout à fait. Alexandre Astier, en tant que spectateur, vous, on connaît votre attachement à la musique et à la manière dont vous la faites. Est-ce qu'une BO inadéquate peut carrément vous pourrir un film, si bon soit-il ?
Bah, ça l'a fait déjà.
Alors, là, des noms.
Oh là là, je vous êtes dur.
Non, est-ce que ça peut vraiment vous perturber ?
Oui, alors j'adore le film Witness. Voilà, ouais. J'aime pas sa musique. Mm-hmm. Pourtant, c'est Maurice Jarre. Et j'y arrive pas parce que c'est Maurice Jarre. Je ne sais pas, c'est pas comme ça que je voyais le truc, et c'est vrai que ça me gâche un peu le truc. Je n'aime pas non plus la musique de Wolf avec Jack Nicholson.
Et ouais. Michel Pfeiffer.
Et Michel Pfeiffer, parce que c'est de Morricone, et je suis désolé, je sais que je mérite le pilori, mais souvent la musique de Morricone me sort du truc, parce que je trouve qu'elle prend une place. Les mélodies sont peut-être trop pour moi, en tout cas mélodiste, c'est-à-dire que d'un coup il y a un pouvoir qui est pris de la musique qui m'empêche de voilà. Mais après moi je suis un mec, s'il y a de la musique je peux rien faire, je peux pas écrire, il faut que je m'arrête tout, je peux à peine conduire, donc c'est peut-être normal que ça me gêne plus que d'autres. Mais voilà, des trucs comme ça où je suis pas toujours d'accord.
Des fois c'est l'inverse, moi. J'ai un film qui me vient en tête, c'est Jackie, où Michael Levy a fait la musique. J'ai pu écouter cette musique en boucle chez moi, mais après le film, bon, c'est pas le film qui m'est resté le plus, c'est la musique qui m'a marqué le plus.
Le chef d'orchestre allemand Frank Strobel, qui a eu la lourde tâche d'enregistrer la BO de Kaamelott, dit, je le cite, « Il y a bien des réalisateurs très précis dans leurs choix musicaux, mais Alexandre Astier est pour moi dans la lignée directe de Charlie Chaplin, un génie du siècle dernier qui, comme lui, produisait, réalisait, composait et jouait dans ses films. » C'est moi ou je vous vois rougir là ?
Bah non, mais c'est dur quand même. Mais c'est dur. Il y a un truc qui est marrant qu'il a fait Strobel. C'est qu'à un moment, il dirigeait, j'étais derrière dans la salle, et puis je voulais une fin plus marquée, vous savez, avec un petit ralentendo, un truc, un truc un peu, bon voilà, c'est un film épique, quoi, au bout d'un moment, hein, c'est pas Parapluie de Cherbourg le truc, donc forcément, il fallait un peu donner. Donc j'essayais de lui expliquer, on parlait en anglais, il faudrait un peu plus de. Et j'arrivais pas à trouver le mot, vous voyez, j'étais en train de faire des gestes avec les bras, ça se voit pas à la radio, mais je l'ai fait là.
Je vois très bien, moi.
Et puis d'un coup, il se retourne comme ça, et très doucement, il me dit. More German. J'ai dit, oui, voilà, c'est ça. Voilà, more German. Et comme quoi ils le savent, hein. Comme quoi ils le savent, des fois ils sont un peu. Enfin, quand on leur demande du. Voilà, ils savent le faire. C'est les Allemands.
Qu'est-ce que vous en pensez de ce zigoto-là?
D'Alexandre.
Ça part mal, la question.
Je suis un peu dirigé là.
Le chef d'orchestre, vous voulez dire?
Le chef d'orchestre, L'Oréal.
Non, mais pour revenir sur la BO.
Mais je pose une question très précise.
Non, je voulais changer. Qu'est-ce que je pense d'Alexandre?
Qu'est-ce qui représente pour vous ce. Pas de Charlie Chaplin,
c'est
comme
terrible parce que j'ai que des bons mots qui.
Vous voulez que je sorte?
Non, mais ouais, c'est ça. L'intelligence?
Oui, voilà.
Alain, on va faire une série d'adjectifs.
Jusque-là, ça va.
Non, mais c'est bien.
Non, mais si, l'intelligence. Moi, ce que je trouve génial chez Alexandre, c'est qu'il y a plein de niveaux de lecture. Mm-hmm. Et qu'on peut tomber sur une interview d'Alexandre qui va nous parler de l'espace, et puis on va trouver une interview qui va nous parler de la comédie. Et donc, il y a toujours cette notion de sens, et d'histoire, et de connaissance des choses. Et moi, je trouve ça rare, en fait. Extrêmement inspirant. Et donc on a envie de, quand ils nous appellent sur un projet, on a envie de servir ça, parce qu'on sait que ça vient pas là comme ça. C'est, il y a quelque chose de profond, quoi, dans Raciné, dans les choses. Tu rougis ou ça?
C'est pas fastoche, mais enfin, une fois, c'est de la radio. Ah non, il y a des caméras.
Il est franchement écarlate, mais comme les couleurs de France Inter, c'est un rouge assez carmin, on va dire. Ils se font dans notre décor.
C'est pas mal.
Non, mais c'est assez impressionnant, la BO de l'album aussi.
Ben oui, c'est impressionnant.
C'est-à-dire que moi, aussi, c'est une BO qui est sortie avant le film, donc moi, je l'ai écoutée toutes mes après-midi.
Sur les conseils d'Alexandre.
Oui.
Il fallait l'écouter avant d'aller voir le film.
Ouais, mais j'ai apprécié connaître la BO, etc. Toutes mes après-midi Carte Magic avec mes amis, on se mettait la petite BO.
C'est pas mal pour Carte Magic.
C'est
ça.
Génial, c'est parfait. Je conseille.
C'est pas bête.
Je recommande très fortement.
Et pourquoi est-ce que c'était aussi important de l'écouter avant de découvrir le film ?
C'est pas que c'était important, mais je trouve que c'est un showstrat de plus. Je me suis un peu concentré quand même sur les titres. Pour pas que, parce qu'il y en avait, moi, mes titres à moi, ils étaient beaucoup plus explicites que ça sur ce à quoi ça servait dans le film, parce que c'était des points de montage. Ouais. Donc j'ai changé les titres pour qu'ils soient plus mystérieux, ou en tout cas qu'ils proposent des doubles pistes, c'est-à-dire c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça, peut-être que, vous voyez, Arthur à la tour, par exemple.
Mais la liste raconte une histoire en elle-même déjà. Ouais.
Exactement, mais elle raconte, on peut quand même aller voir le film et se dire, ah oui, non, je croyais que c'était ça, mais en fait c'est pas ça. Il y a quand même des pièges tendus.
Ça s'appelle des choses trap, voilà.
Oui, ou des choses trap, oui, absolument.
Ou le robot d'Alexandre Astier. Nous surprendre. Bon, Jenny, merci infiniment d'être passée par notre studio pour répondre à
toujours un plaisir.
Ces quelques questions sur Alex et la musique. Alexandre Astier, cette semaine spéciale continue
Demain, bah oui.
C'est ah pas oui, fini, oui, moi je bouge pas, hein, je reste dans le studio même, si faut, c'est vous dire.
Et pour la dernière, attention,
non,
teaser.
Non, commencez pas, je suis absolument pas roi, il n'y a pas besoin de se lever.
Car oui, nous parlerons du premier volet du film Kaamelott avec un pop-up spécial cinéma. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets, 3615 pop-up. Merci Charline.
Merci Antoine.
À demain, et merci à toute l'équipe de pop-up et à Pierre-Yves Derolin qui était à la technique aujourd'hui.